RFI Matin, la suite avec, dans un instant, notre invité Afrique pour revenir sur les résultats du premier tour des élections législatives en France. Nous sommes avec Marcona Essangui, figure de la société civile gabonaise, troisième vice-président du Sénat. Et avant ça, les sports, avec Sarah Lou Bakouche. Bonjour Sarah Lou.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous.
L'Euro de football, pour commencer, les huitièmes de finale se poursuivent. Hier soir, les Anglais ont validé leur ticket pour les quarts face à la Slovaquie, sans trop rugir.
Oui, oubliez les Three Lions. Hier soir, ce sont deux lions qui ont délivré les Anglais aux portes de l'élimination. Alors de ce match face à la Slovaquie, mené 1-0 jusque dans les toutes dernières minutes du jeu, jusqu'au réveil de Jude Bellingham à la 95e. Un retourné tout aussi extraordinaire qu'inattendu, qui a permis l'égalisation pour les Anglais, suivi d'un but de Harry Kane. Bellingham, qui n'a pas perdu ses bonnes habitudes déployées cette saison au Real Madrid, renverser le cours d'un match dans les toutes dernières secondes. Bellingham, sauveur d'une Angleterre en souffrance, qui a savouré ce but historique.
Oui, c'est probablement le but le plus important de ma carrière, ou dans les environs au moins. Il y en a quelques autres de beaux qui veulent dire beaucoup pour moi. Mon premier but avec Birmingham, avec Dortmund ou pour Madrid, c'est toujours spécial. Mais je pense que ce but fait partie du lot. Vous savez, il est tellement impactant aujourd'hui. Si je ne marque pas, l'humeur n'aurait pas du tout été la même. Donc oui, ce but-là est tout en haut.
Et oui, ce n'est peut-être qu'un but pour vous, mais pour lui, ça veut dire beaucoup, puisqu'il pourrait se rapprocher du Ballon d'Or grâce à ce but. Il a remporté en Bellingham le championnat et la Ligue des Champions avec le Real. Et s'il continue d'être aussi décisif en sélection, ça pourrait lui faire du bien, en tout cas en ce qui concerne sa sélection. Les hommes de Gareth Southgate vont retrouver la Suisse tombeuse de l'Italie. La Suisse donc en quart de finale samedi.
Et l'Espagne, elle aussi, file en quart. Elle a balayé la Géorgie 4-1 ce dimanche soir.
Oui, petit poussé ou pas, personne n'est épargné par la fougue de la Roja, qui n'a pas apprécié cette ouverture du score inespérée par les Géorgiens à la faveur d'un contre son camp. 4 buts espagnols pour mettre fin au rêve de la Géorgie, cette jeune sélection qui disputait son tout premier Euro. C'était un petit peu la surprise de la compétition, mais elle peut sortir la tête haute. Elle n'ira pas en quart, mais elle a déjà déjoué les pronostics en sortant de son groupe et en battant le Portugal 2-0. Suite de l'aventure pour les Espagnols, ce sera vendredi face à l'Allemagne. Un choc qui s'annonce assez magistral.
Et aujourd'hui, des retrouvailles très attendues entre la France et la Belgique.
Et oui, se qualifier en quart de finale serait l'occasion pour les Bleus d'enfin lancer leur Euro, de ne pas revivre l'élimination de la dernière édition en huitième face à la Suisse. La tâche s'annonce compliquée face à la Belgique. Cette rencontre est hantée par un certain mondial 2018. Cette élimination de la Belgique en demi-finale, très mal vécu par les Belges, par les Diables Rouges qui comptent bien prendre leur revanche, faire oublier le mot seum, le sortir de leur vocabulaire ce mot. Coup d'envoi à 16h, temps universel, et on vous en parle évidemment sur l'antenne de RFI avec notre envoyé spécial en Allemagne, Antoine Grenier.
Merci Sarah Lou Bakouche, à tout à l'heure.
RFI, toute l'actualité. Arnaud Pontus.
Avec à la une les élections législatives en France, premier tour et le RN qui rafle la mise, le Rassemblement National largement en tête avec ses alliés, plus de 33%, le Nouveau Front Populaire de gauche, 28,5%, Ensemble pour la République, le camp présidentiel s'établit autour de 22%, les Républicains à 10%, paysage politique morcelé mais nette avance donc pour le RN et déroute du camp présidentiel avec des consignes à géométrie variable dans le cas du second tour. Et des désistements au cas par cas, alors que les candidats ont jusqu'à demain 18h pour déposer leur candidature en vue du second tour. Dimanche prochain, édition spéciale à suivre. Et on s'arrête dès maintenant sur les résultats de ce premier tour des législatives et sur les suites, avec le regard d'un intellectuel africain, Marcona Essangui, figure de la société civile gabonaise, aujourd'hui troisième vice-président du Sénat gabonais. Il se définit comme un grand observateur de la vie politique française. Marcona Essangui est notre invité Afrique, en ligne avec Kaourou Magassa.
Marcona Essangui, bonjour.
Bonjour.
Les résultats des élections législatives françaises donnent au niveau national la victoire du Rassemblement National. Ce parti d'extrême droite vise et est toujours en lice pour avoir une majorité absolue à l'Assemblée dans une semaine. Comment réagissez-vous ?
Les Français ont exprimé leur volonté de voir la France changer. C'est l'expression du peuple et c'est une expression souveraine. Je pense qu'on doit respecter cette expression. Si le Rassemblement National est aujourd'hui en tête des suffrages. Cela voudrait tout simplement dire que les Français estiment que le Rassemblement national doit diriger la France.
Et est-ce qu'il y a des craintes d'une victoire du Rassemblement national pour les Africains ?
Ben écoutez, je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes sur cette histoire pour les Africains. La France appartient aux Français. Ce sont les Français qui s'expriment. Maintenant, imaginons que Bardella soit Premier ministre. Entre le discours politique et la réalité du pouvoir, je pense qu'il y a une différence à faire. Moi, Africain, je ne pense pas que nous soyons inquiets. Si on est inquiet en Afrique, est-ce que cela voudrait dire que les Français aussi devraient être inquiets quand ils sont ici ?
Oui, mais il y a quand même eu, malgré tout, beaucoup de commentaires sur l'élection française sur le continent africain. Le programme du Rassemblement national vise à restreindre la migration dans le pays. Au vu des résultats d'hier et l'arrivée probable au pouvoir de l'extrême droite, il n'y a pas des risques quand même pour les Africains ou pour les Afro-descendants qui vivent en France ?
Alors, si vous suivez les campagnes électorales dans les différents pays en Afrique, le discours qui est porté sur l'immigration est un discours qu'on retrouve dans tous les peuples. C'est le populisme. Alors, face à ce populisme, quelle est la réalité ? Les hommes politiques qui discourent ne sont pas toujours ceux qui mettent leur discours en pratique. Je suis sûr qu'aujourd'hui, Bardella, à la tête du gouvernement français, ne pourra jamais appliquer ce qu'il a prononcé comme discours. Ce sont des discours populistes pour se faire élire.
Mais selon vous, que va changer la reconfiguration politique en France qui s'annonce ? Quel impact cela pourrait-il avoir pour le continent africain sur le plan économique et politique ?
Je pense que ce sont les relations de coopération entre la France et les pays africains qui vont s'imposer. Je suis gabonais. Ce qui m'intéresse, c'est la relation entre la France et le Gabon. Chaque pays définit la politique de coopération avec tous les partenaires internationaux. C'est valable pour la France, c'est valable pour la Chine, pour la Russie, pour les États-Unis. Je ne pense pas que nous soyons esclaves d'une certaine vision entre la France et l'Afrique. Non, chaque pays va définir sa politique.
Avec la perte probable de sa majorité, une cohabitation, est-ce selon vous la fin de la politique africaine d'Emmanuel Macron ? Emmanuel Macron promettait d'ailleurs la rupture avec ses prédécesseurs. A-t-il selon vous réussi son pari ?
C'est le même discours que Hollande avait tenu, le même discours que Chirac avait tenu, mais on a vu exactement ce qui s'est passé. Je pense qu'il faudrait tout simplement que la vision de la France sur beaucoup de pays africains, il faudrait changer de vision. La vision qui consiste à venir exploiter nos ressources tout simplement, sans pour autant assurer ce transfert de technologie, il faudrait absolument que cette vision change. Il faudrait aussi que les Africains sachent que 60 ans plus tard, si nous ne sommes pas capables de mettre les moyens, de créer des structures, des multinationales pour exploiter nous-mêmes nos ressources et les mettre à la disposition de ceux qui en ont besoin, nous serons toujours dans cette situation.
Vous avez des espoirs de changement des relations entre la France et les pays africains ?
Tout dépend du rapport de force que les Africains vont mettre sur la balance. Pas dans le populisme, mais dans les faits. Les Africains doivent prendre leurs responsabilités pour se débarrasser des facteurs de sous-développement. C'est ce débat qu'on doit avoir, pas le débat de bouc émissaire ou d'accusations de tel ou tel qui voudrait appauvrir l'Afrique. Et ce qui est contradictoire dans le discours de certains Africains, c'est de penser que voilà, on va chasser la France, on va chasser le colon, et puis on va se jeter dans les bras de la Russie, de la Chine et autres. Mais on ne peut pas être aussi incohérent. Si nous voulons nous débarrasser de tout ce qui, pour beaucoup, est à l'origine de notre sous-développement, ben, il faut tenir un discours qui engage les Africains pour se développer. Parce que nous avons tout. Nous avons la ressource naturelle, nous avons la ressource humaine, nous avons tout.
Marc Onaïsangui, merci.
Merci, c'est moi qui vous remercie.
Marc Onaïsangui, troisième vice-président du Sénat gabonais, en ligne avec Kaourou Magassa. L'actualité des matières premières avec Marie Pierre-Olfand. Depuis leur retour au pouvoir en 2021, les talibans n'ont pas oublié de s'intéresser au potentiel minier du pays. D'après une étude rendue publique par le Financial Times, les talibans auraient conclu plus de 200 accords pour une valeur de plusieurs milliards de dollars.
Depuis leur retour au pouvoir, les talibans ont signé en moyenne un contrat minier par semaine. À ce jour, les quelques petits gisements exploités sont essentiellement situés dans la province orientale de Nangarhar et ce n'est pas pour rien. Le sol y est riche en chromite, utilisé pour des alliages, et en néphrite, la variété de jade la moins précieuse. On trouve ces minerais dans des gisements de surface qui peuvent être exploités de manière techniquement très simple, sans investissement extraordinaire. Ces exploitations fournissent par ailleurs des minerais qui peuvent être commercialisés à l'état brut, sans traitement particulier, si ce n'est un tri manuel pour constituer des lots de qualité différentes. En août dernier, les autorités ont également annoncé la conclusion d'une quinzaine de plus gros contrats relatifs là essentiellement à des gisements de fer. Parmi les bénéficiaires, on trouve des Afghans, des Chinois, des Iraniens ou encore des Turcs, mais aucun investisseur réputé à l'international. Avec ces nouveaux contrats, les autorités espèrent répondre aux immenses difficultés financières du pays. Mais si le potentiel minéral est considérable, la part de la ressource qui est exploitable techniquement et économiquement rentable est beaucoup plus floue. Le dernier inventaire détaillé du patrimoine minéral afghan a été publié par les services géologiques américains. Il remonte à 2011 et se fonde largement sur une compilation de données soviétiques. Pour que le secteur minier devienne un jour la colonne vertébrale de l'économie afghane, il faudrait que l'exploitation change d'échelle et sorte des pratiques artisanales et semi-industrielles actuelles. Mais cela implique le développement de compétences humaines, de technologies complexes et des milliards de dollars d'investissement dans les infrastructures que personne ne paraît engagé à faire pour l'instant.
Marie-Pierre Olfan pour les matières premières. Grand reportage aujourd'hui aux Philippines. La guerre menée contre la drogue par l'ancien président Rodrigo Duterte aurait fait entre 20 000 et 30 000 morts, une estimation des organisations de défense des droits de l'homme. Il constate que cette répression violente du trafic de stupéfiants a profondément traumatisé l'archipel. Des groupes armés ont tué, hors de tout cadre légal, abattant dans les rues des trafiquants ou des consommateurs présumés. La Cour pénale internationale a ouvert un dossier pour crimes contre l'humanité, contre l'ancien président. Aujourd'hui, les familles des victimes espèrent la justice. Grand reportage de Nicolas Roquin.
Je m'appelle Salvation Ramos. J'ai 65 ans et je suis mariée. Ma fille a été tuée. C'était Cristeta Ramos. Elle était célibataire. Elle habitait avec nous, avec mes deux fils. Elle nous aidait toujours. « Maman, je vais t'aider à nettoyer les habits », disait-elle. Mais à un moment donné, elle a commencé à fréquenter des amis qui prenaient de la drogue.
Chez les jeunes de quartiers défavorisés, l'usage de méthamphétamine était une pratique répandue avant les années Duterte.
Ma fille a été accusée par le barangay.
Le barangay est le plus bas échelon administratif aux Philippines.
D'être une toxicomane. Donc je suis allée confier le nom de ma fille aux autorités et à la police pour que ma fille aille bien, qu'elle puisse faire une cure, qu'elle arrête de consommer de la drogue. Mais non. Ils ont mis une marque rouge sur notre maison pour qu'ils puissent savoir qui ils devaient tuer. Je l'ai accompagnée au barangay, mais ils n'ont jamais prévu de cure pour ma fille. J'étais très triste et elle m'a dit « Mais ne t'excuse pas auprès d'eux, ils vont me tuer, ils vont me tuer. »
À ce moment du récit, nous sommes en février 2017, en plein cœur de la guerre contre la drogue menée par Rodrigo Duterte, au pouvoir depuis 8 mois. Dans les quartiers populaires, les morts s'accumulent.
Deux semaines plus tard, vers minuit, j'étais déjà endormie. J'entends un coup de feu, 2, 3, 4 coups de feu. Je me lève et je cours devant la maison et je vois 4 hommes en train de courir pour s'échapper. Et je vois que ma fille est déjà allongée au sol, avec des trous dans son crâne, son dos, son sexe. J'ai pleuré. Je ne pouvais pas serrer ma fille dans mes bras. Alors j'ai pris un morceau de couverture pour entourer sa tête. Je lui ai dit « Je t'aime énormément, mais je ne peux rien faire pour t'aider, car ils ont des armes. »
Un meurtre en pleine rue, hors de tout cadre légal. Une scène tristement banale au pic de la répression. Et pour les familles démunies, il n'existe aucun recours, ou presque.
Aux Philippines, la quête de justice des victimes de la guerre contre la drogue. Grand reportage de Nicolas Roca, c'est à écouter à 19h40, temps universel, 21h40, heure de Paris. RFI Matin en édition spéciale ce matin au lendemain du premier tour des élections législatives en France. C'est avec vous Nathalie Amar. Bonjour Nathalie.
Bonjour Arnaud et bienvenue à vous qui nous rejoignez en ce lundi 1er juillet. Une question effectivement est à la une des RFI Matin. Qui pour gouverner la France dans une semaine? Le RN arrive largement en tête du premier tour des législatives. 33% des suffrages. Il confirme son bon score des européennes. Parviendra-t-il à une majorité absolue? C'est la grande question. La gauche du nouveau Front Populaire obtient 28% des voix, le camp présidentiel un peu plus de 20%. Dans les rangs du RN de Jordan Bardella, on appelle à la mobilisation avant le second tour. La gauche, elle appelle ses candidats à se désister s'ils arrivent en troisième position et que l'extrême droite est en mesure de l'emporter. Emmanuel Macron appelle, lui, à un large rassemblement du camp démocrate et républicain. La campagne a déjà commencé pour ce second tour. On va y revenir largement jusqu'à 9h30. Les résultats d'hier, les hypothèses pour la suite du quinquennat. Nos invités, politologues, représentants des partis politiques, nous rejoignent dès 8h10. On verra aussi, évidemment, comment ce vote est perçu ailleurs dans le monde, en Afrique, dans l'ensemble de l'Europe. Rendez-vous dans une minute tout juste.
Appelez-nous, exprimez-vous. Juan Gomez.
Vous souhaitez mieux comprendre et décrypter l'actualité? RFI vous donne la parole. Tous les jours à 8h10 TU, la rédaction répond à vos questions. Rejoignez-nous dès maintenant au 33 9 693 693 70 par courrier électronique, appel au pluriel, .actu@rfi.fr et sur les réseaux sociaux.
Retrouvez Appel sur l'actualité tout à l'heure avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
RFI.
Tout à l'heure sur RFI, de vive voix, Pascal Paradou.
Pauvre de moi, Marcel Pagnol est mort il y a 50 ans, mais ses romans, ses films et ses personnages sont des symboles de la Provence, de ce sud typique où l'on boit le pastis et joue aux cartes. Porte-voix de la gouaille marseillaise, Pagnol était aussi académicien, une littérature du grand écart.
Écoutez De vive voix avec Pascal Paradou, du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI.